Bonjour. Je vous redis, avec Alex Kominek.
Ça va?
Ouais, non, ça. Il y a Alexandre, c'est ça. Il y a Alexandre Kominek, Alexis Le Rossignol. Je peux pas dire Alex, c'est pas possible ça. Tom Villa, ça je vais faire. Monsieur Tanguy Pastureau, Monsieur Daniel Morin, il y a trop de mecs ici.
Hein.
Heureusement que nous recevons Johan Sfar et Mathieu Sapin.
Bah non, reste.
T'as intérêt à assurer, hein, Leïla.
Oh, d'habitude, oui. Hein.
Non, d'habitude, oui, mais là, il faut. Je vous demande de laisser extrêmement parler Leïla Toulon.
Cette phrase est chaotique.
Et moi, le premier. Le début de l'émission est chaotique. Ah, ouais. Tout est chaotique. Nous allons parler avec Johan Sfar et Mathieu Sapin.
Quel BD, j'adore.
De Trembler en France, le ministère secret, le tome 2, donc publié depuis le début novembre, fin novembre. Et il y a également La Bible pour les chats chez Dargaud, signé par Johan Sfar. C'est Le chat du rabbin. Alors, blind test? Je vais y arriver.
Quel
blind test? Putain, heureusement qu'on est au mois de juin et que c'est la fin de la saison.
Allez.
Oh là là. Qui chante ça?
Tanguy?
Ouais.
Ah non, pardon. Je me suis trompé d'intro.
Le Grand Bleu?
Non.
Alexis, Polnareff?
Non.
Leïla?
Tom?
Leïla?
Ouais.
Céline Dion et Garou?
Bravo.
Ouais.
Ah, c'est angine quand même.
Alors attends.
Sous le vent. Non, vous n'avez pas trouvé le thème?
La météo.
Trembler en France.
On tremble, on a froid.
Non.
Le vent, les crises météorologiques.
Qui chante ça?
Tanguy.
Oui,
Tanguy. Jean-Jacques Goldman et Michael Jones.
Yeah.
Ah, les duos.
Les duos. Donne.
Ah, les duos.
Oh là là.
C'est Vincent. On sera jamais des standards.
Ah oui, duo Sébastien.
Ouais.
Oui.
Ah bah j'étais fatigué.
Et ça a beaucoup mieux aujourd'hui d'ailleurs.
Non,
t'as bien fait de te reposer. Hein.
Non, c'est aujourd'hui. Et là,
Daniel.
Oh, attends, Daniel.
Gainsbourg, Bardot.
Qui chante ça?
Tanguy,
oui.
Ça balance pas mal à Paris, ouais. Michel Berger, France Gall.
Joli.
Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal.
Bien joué.
Là, vous moquez de moi. Vous moquez de moi, mais quand c'est facile, vous assurez.
Ça balance aussi.
Pas vous assurer. Je ne parle pas d'Alexandre Kominek ni d'Alexis Le Rossignol, encore moins de Tom Villa.
Ouais.
Présent, je vous rappelle, autour de cette table.
On arrive.
Et là.
Tanguy,
oui.
Mick Jagger et David Bowie, Dancing in the Streets.
Ça va, Alex?
Ouais, super.
Reprise de Martin, nous avons des.
Ouais, j'ai fait ça pour le Live Aid.
Ouais. Ouais, ouais.
Et là.
Daniel.
Oh, Daniel.
Mais non, monsieur.
Olivia Newton-John et John Travolta.
J'ai crié trop tard.
Titre.
Tell me more.
J'adore.
Attention.
C'était quand même bien. C'était bon temps.
On peut en parler de la scène où ils découpent la bagnole alors que c'est du carton ou tu sais quand ils font la course dans l'espèce de pipe.
Je me souviens plus.
Attends. Tu veux briser des rêves quoi. Mais ouais. Tom.
Ah bah bravo monsieur
Tom,
Villa.
On touche pas ça.
Tom,
on touche pas.
Moi j'ai plus rien. Non.
Tu ne touches pas à Grease.
Voilà.
Dernier titre et c'est un titre qui peut rapporter 4 points donc la victoire.
Daniel.
Alexandre.
Daniel.
Non, c'est Daniel.
Daniel ou Alexandre?
Allez, donne-le vite.
Felicita.
C'est qui les interprètes?
Felicita.
Qui sont les interprètes?
C'est pas Barzotti et...
Non.
Alexandre, t'as les interprètes?
Povi et Sakeri.
Non, c'est Richie et Poveri, c'est autre chose.
Richie Poveri. C'est qui là?
Felicita.
C'est qui? Allez Daniel.
Ah t'as un autre super banco Nagui.
Non bah non, ça aura pas passé 3 heures, nos invités sont là.
Daniel Homme,
ouais, mais depuis 10 heures.
Albano et Romina Power.
Oh, c'était impossible.
Pas loin de
Romina Power.
Le niveau était trop
haut comme nom.
Romina Power. Ouais.
Un nom bizarre.
Mais félicitations Monsieur Daniel
Moreno.
Merci d'accueillir Mathieu Sapin et Johan Sfar.
Oh oui.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Johan Svar qui a l'humeur joueuse ce matin. Il est
toujours.
Mais non.
Il est taquin.
Il est toujours. Il est très taquin.
Il
déjà.
Est taquin.
Il m'a agressé sur mes chaussures. Ça commence très mal.
Bah, qui ne le fait pas.
J'ai été agressé visuellement par vos chaussures. C'est différent. Bon, matin, ça m'a ébloui. C'était le soleil de Nice tout de suite.
Vous-même, vous êtes éblouissant, mon cher, parce que vous avez deux bandes dessinées qui sortent en même temps. Je sais pas comment Mathieu Sapin vous vivez cette situation d'être. Réduit au rang de moitié de Johan Svar.
C'est compliqué comme question.
Comme Johan, il prend
beaucoup de
beaucoup
place.
De place 50% c'est déjà bien.
Ça s'appelle Trembler en France, cette nouvelle bande dessinée de dingue. Je rappelle que tout est vrai dans le ministère secret. D'ailleurs, en préambule, vous l'expliquez hein, dans ce deuxième volume. Oui. Vous dites attention, contrairement à tous ceux qui prennent des précautions d'emploi d'usage, là, tout est vrai. Et tant pis, nous serons attaqués. Mais nous allons dire la vérité, toute
on
la vérité.
On prend des risques.
Comment... Tout ce qui est anecdotique est justifié.
Anecdotite.
Tite.
Ouais, c'est quand on a mal à l'oreille.
Voilà. Anecdotite, c'est quand j'ai mal à l'oreille. Très bien, exactement.
On va commencer.
Je vais partir.
On va commencer par. Non, mais c'est cette notion de super-héros. Alors, comment resituer le ministère secret pour ceux qui ont raté le premier épisode? On est avec des présidents de la République.
Deux anciens présidents de la République qui ne sont plus en fonction, donc. Et qui doivent prendre un certain nombre de responsabilités pour déjouer des pièges qui mettent en péril la patrie.
Les vrais périls.
Les c'est vrais. C'est-à-dire
les reptiliens, les attaques de ninja, etc.
C'est parti après une soirée arrosée, comment
mais non, mais on veut sauver la République. Et les Français aiment bien leur président dès qu'ils se sont fait virer. Et comme tout le monde dit toujours qu'ils foutent rien, nous on a essayé d'expliquer que c'est là que le boulot commence, c'est quand ils quittent l'Élysée.
Évidemment, ils se mettent à travailler enfin.
Non, Johan Svar s'arrête toujours comme ça dans ses phrases. Souviens-toi, à chaque fois, il s'arrête comme ça.
Il faut pas.
C'est... Non, si, c'est bien, mais c'est perturbant pour nous. On s'attend à un truc.
Il fait 4 heures.
C'est un point de suspension.
Moi, j'aime les
certaines éditions nocturnes aussi.
Non, mais remarquez, après Lucchini, ça nous change. Mais
est-ce que y en a.
Moi, je ne grimpe pas sur les tables. Je faisais ma promo en Belgique hier, c'est dans une petite télé. Le gars, il me dit. Sophie Fontanelle s'est allongée sur cette table hier. Tout ce que j'ai trouvé à répondre, c'est pas moi.
C'est bien
répondu.
C'est sobre. Qui des deux est le premier à avoir eu l'idée, Mathieu? Ou alors c'était vraiment...
Moi je suis la marionnette de Johan. C'est lui qui a eu toutes ces idées complètement
folles. C'est lui
folles.
Le papa, d'accord. Et vous êtes l'objet.
Je suis l'objet consentant, hein, cela dit. Mais puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que je suis moi-même dans la bande dessinée. Je suis un des personnages, si ce n'est le personnage
principal,
central.
Bah oui.
Mais je n'ai pas la main sur ce qui m'arrive. Et ni sur mes dialogues d'ailleurs. Même mes dialogues ne sont pas de moi. D'ailleurs, quand je parle avec vous, là, c'est pas moi qui ai écrit
le texte.
De toute façon, c'est le lecteur qui a le choix. Puisqu'on choisit qui on choisit.
Tout à fait.
Je me demande, Johan Svar, si vous n'êtes pas prêt. Ça veut dire quoi?
J'ai des problèmes avec les mots. Ils arrivent dans le désordre dans ma bouche. J'ai des consonnes qui arrivent en trop.
C'est pas grave, Daniel. Ça se soigne.
Je vais revenir.
Est-ce que vous n'êtes pas aussi un tout petit peu dans tous les personnages, Johan Svar, vous-même? Parce que il y a d'autres, on va dire, créatures dans cette bande dessinée. Je sais pas comment
il y a toutes sortes de bestioles. Mais non, mais moi, j'aime bien être la voix off. J'aime bien être la voix comme dans Blek et Morty. Il y en a qui dit, et alors, nos héros font face à un péril terrible. Et enfin, on découvre qu'Edouard Balladur est un extraterrestre.
Ouais.
Et que
faire les didascalies, quoi, c'est ça.
Voilà, ça, j'adore. Tout ce qui paraissait pénible dans les vieilles BD, j'adore le reprendre et l'utiliser. Maintenant qu'on dit, attends, les grandes BD en couleur, c'est fini, il faut du roman BD avec 500 pages. Moi, je veux faire des grandes BD en couleur avec une chouette aventure avec des copains qui sauvent la République.
Mais comme moi, je fais les dessins, c'est bizarre aussi parce que je fais aussi le lettrage et donc, du coup, je parle de moi à la troisième personne. Mathieu Sapin fait ça, Mathieu Sapin ouvre la porte et donc, ça paraît un peu prétentieux comme ça.
Ça fait du bien.
Et pourtant, au début de cet album, Mathieu Sapin est résolu à vivre une vie normale, en famille, à faire des jeux de rôle, voilà. À ne pas fâcher sa femme, parce que quand il part sur ses aventures, il l'abandonne toujours dans des circonstances un peu pénibles. Oui. Donc il est déterminé.
Il lui dit même qu'il est frustré.
Voilà, il est
et
déterminé.
Et même des précautions extrêmes sont prises pour ne pas être dérangé.
Absolument, il coupe le téléphone, il n'y a pas de téléphone là où il est, et pourtant il est retrouvé par... François Hollande, c'est quand même François Hollande le premier qui intervient.
Avec un lance-flamme.
Évidemment.
Moi, j'ai quand même réussi à faire croire à la femme de Mathieu Sapin que quand il n'est pas là le soir, c'est parce qu'il est avec François Hollande.
Juste pour ça, ça vaut une BD.
Qui est la plus belle arnaque. Le ministère secret, le tome 2, signé Johan Svar, Mathieu Sapin. Et ça s'appelle Trembler en France, aux éditions Dupuis. Et on va parler également, publié chez Poisson Pilote, du chat du rabbin, la Bible pour les chats. Les deux sont sortis exactement le même jour. Vous êtes un vicieux.
Non, ça permet de faire qu'une tournée.
De promo.
Oui. Ah, vous êtes un feignant, alors. Et puis pour les gens, c'est plus pratique.
C'est pour l'empreinte carbone, c'est ça. C'est
non,
pour...
mais j'aime bien, mais quand on aime bien se promener ensemble, en fait. On fait nos petits voyages et tout, on aime bien.
Un petit couple.
Oui. Voilà.
Très bien. Ça tombe bien parce que vous êtes venus ensemble et tous les deux, eh bien, Alexandre Kominiak ne vous aime pas. Ah.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Eh bien me revoilà une fois de plus à remplacer Morgane Cadignan. Et je l'ai eu au téléphone hier, elle était fière de moi. Voilà, on en a profité ensuite pour chier sur le monde. Puis on a parlé de nos conditions de travail à Inter. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais Nagui retient bien un mot. Prud'homme, voilà. Et ce matin, qui c'est qui vient? Alors je ne vais pas tourner autour du pot ni vous faire un dessin. Parce que moi, contrairement à vous, je ne sais pas dessiner. Mathieu Sapin, Johan Sfar, je ne vous aime pas. Voilà. Pourtant, Sapin et Sfar, ça fait SS. Et rien que pour ça, j'aurais pu vous aimer.
Bah, c'est tendance.
Hein, bah oui, c'est pas le créateur du chat du rabbin qui va me cogner pour cette vanne. Mais allons-y un par un. Mathieu Sapin, né à Dijon le 7 octobre 1974. Signe astrologique balance. En bah tiens, après SS, le voilà collabo. Mais bon, quand t'es né à Dijon, je comprends la haine. Non mais c'est vrai, hein, c'est plus un endroit que tu quittes que l'inverse. Hein. T'as jamais entendu quelqu'un te dire « je pars en vacances à Dijon hein. ». Bah, regardez, Denis Brognard est de Dijon. Je suis sûr que s'il a fait Koh-Lanta, c'est avant tout pour fuir loin de Dijon. Hein, Dijon quand même, de la moutarde et des Tchétchènes. En 92. Mathieu, vous rentrez aux Arts Déco de Strasbourg, parcours durant lequel vous allez créer Super Murgeman, hein, votre premier héros pour le magazine de l'école. En 2000, vous sortez votre première BD, L'Oreille Gauche, et en 2002, vous vous faites connaître grâce au premier tome de ce fameux Super Murgeman, un anti-héros qui carbure à la bière, personnage tiré de vos vacances arrosées à Corfou. Et moi, ça m'énerve, ça, les gens hein, qui arrivent à tirer du positif de leur connerie. Le mec picole tous les soirs, derrière, il te fait une BD qui cartonne. Bordel, moi, ça fait 16 ans que je picole, je n'ai toujours rien recraché. Enfin, si, mais ça cartonne pas du tout. Et alors, après Mathieu Sapin, vous m'énervez encore plus quand en 2015, vous avez accès à l'Élysée. Hein, vous suivez le président, vous vous vautrez avec les grands de ce monde. Nous, même Nagui, on peut pas le tutoyer. Hein, pour vous dire. N'est-ce pas, votre excellence?
Absolument.
Et alors, Johan Sfar, je peux pas vous sentir. Enfin, si. Et il sent bon. Ça m'énerve. Non, mais déjà, faut savoir que Sfar, ça vient de Sofar, qui signifie scribe en hébreu. Hein, celui qui calligraphie la Torah. Le mec est envoyé par le divin, quand même. Moi, je m'appelle Kominiak. Ça veut dire petite cheminée en polonais. Même pas cheminée. Petite cheminée. Alors, ok, c'est pas la taille qui compte, mais bon, quand il s'agit de chauffer à l'intérieur...
Non, ça va,
je continue, on se calme.
Bah quoi ?
Après votre bac, Johan Sfar, après votre bac, vous faites des études de philosophie, puis en 92, vous rentrez directement en deuxième année des Beaux-Arts. Qui aime les gens qui sautent des classes, franchement? Enfin, normalement, ils se font taper, mais aux Beaux-Arts, tu risques quoi? Hein, d'être forcé d'honorer la vieille fripée qui fait le modèle pour 20 balles? Franchement, ça va. Et ça continue quand en 94, vous publiez non pas votre première BD, mais vos trois premières BD. Évidemment, monsieur ne peut pas faire une chose à la fois. Hein, et ça montre déjà votre folie du travail. Moi, je vous aime pas, car quand je vous vois, quand je vois tout ce que vous avez fait, ça me renvoie au constat essentiel, mais douloureux, qui fait que je suis qu'une merde. Hein, et, bah oui,
c'est vrai.
Et que monsieur sort des BD par paquet, et quand c'est pas ça, c'est des films, et juste pour foutre la haine à tout le monde, hein, avec Gainsbourg Vie Héroïque, 3 Césars, dont celui du meilleur premier film, et l'année d'après vous recevez le César du meilleur film d'animation pour Le Chat du Rabbin, voilà, en réel ou en animation, Sfar it nique, et après ça veut être aimé. Non mais messieurs Sfar et Sapin, à défaut de pouvoir vous mépriser, laissez-nous au moins vous haïr. Et je terminerai en citant votre ami Riyad Satouf, qui à ce micro se demandait « Mais Sapin et Sfar, au fait, ils bossent encore ?» Je crois bien que oui, et fais chier, quoi.
Merci, Alexandre.
Et Alexandre Kominiak, alias Cheminette, te retrouve tous les vendredis
au Jardin Sauvage, à 21h30.
Voilà.
Petite cheminée, sans blaguer.
Mais c'est joli. Ouais,
une petite cheminée au Jardin Sauvage, c'est mignon. Ouais, c'est
le Ek, qui veut dire petit.
Ek, ça rend petit, ouais.
Voulez-vous lui répondre, Johan Sfar? Voulez-vous le frapper? Voulez-vous
vous êtes gentil.
Tous les droits.
Ah non, moi, il m'a un peu chauffé avec sa cheminée, mais...
Allez.
Alors justement, il y a des lance-flammes dans cette bande dessinée. Elle est pas. Alors j'ai zappé la première. Elle est pas plus violente que la première en termes de destruction et.
Il y a plus de destruction, mais il y a moins d'hémoglobine, je dirais. Si, il y a des têtes coupées.
Je saurais pas dire, mais c'est vrai que ça commence à Dijon parce qu'il était là-bas, tout simplement.
Ouais,
et il suffit qu'il y aille pour qu'il y ait une révolution de Tchétchènes. Et puis évidemment, si vous croyez que c'est des Tchétchènes, mon œil. Nous, il fallait qu'on rétablisse la vérité.
Et puis il y a cette naissance-là parce qu'il y a ces frères jumeaux sortis de nulle part.
On en apprend beaucoup et sur la nature, la vraie nature de Donald Trump.
C'est ça.
Et sur ce qui s'est passé au Capitole en janvier dernier, on a enfin l'explication.
Et sur Balladur aussi. Ok, on peut
rien
dire.
Sur Balladur, bien sûr.
Ok, d'accord. Bah, si on peut rien dire, est-ce que vous avez eu, on avait déjà eu au téléphone, on va pas le faire à chaque fois. François Hollande avait eu
des
retours.
Vous vous souvenez quand même que dans la sortie du tome 1, on a également appelé Nicolas Sarkozy, mais c'était le jour de sa mise en examen et son attaché de presse a dit c'est pas le jour. Et vous rigolez, il s'est passé la même chose pour le tome 2.
C'était le jour.
Ah bah c'était une autre mise en examen.
Mais non.
Ah bah si.
À quand le tome 3 donc?
De nouvelles de la justice.
On aimerait bien qu'il participe à la promo de notre série un petit peu tout de même. On sait bien qu'il a un emploi du temps chargé, mais quand même.
Mais cela dit, le tome 3 il est déjà en cours puisqu'on on a commencé à publier des strips du ministère secret sur le site de Libération.
Et est-ce qu'il avait lu Nicolas Sarkozy?
On sait pas. On sait que François Hollande était très content.
Oui.
Il a brandi l'ouvrage un peu. Enfin, je pense qu'il est comme Salvador Dali, dès qu'il y a son nom, il est content. Moi aussi d'ailleurs. Et Sarkozy, j'en sais rien. On l'admire beaucoup, comme vous le voyez, mais on ne sait pas.
Un exemplaire a été envoyé.
Oui.
Donc il y a beaucoup d'extraterrestres, des lance-flammes, des personnalités, mais aussi des extraterrestres.
Et des tentacules aussi.
Beaucoup de tentacules.
Et un tube mystérieux.
Alors,
le tube,
celui qui permet le succès en fait, c'est ça. Ouais.
Voilà,
le qualifier.
Bon, en fait, maintenant tout le monde le sait. On a récupéré des extraterrestres. Récupéré des extraterrestres dans les années 70. On les a foutus dans des barrages HLM comme à chaque fois qu'on ramasse des étrangers. Et en échange, on a piqué leurs secrets technologiques. Donc il y a une espèce qui nous a refilé le Minitel et l'autre espèce, les baladuriens, parce que vous pensez quand même pas que ce type était humain, qui nous ont filé le tube. Alors le tube, c'est une saloperie. Vous le prenez en main, vous chantez une chanson à la con et elle a du succès. C'est à cause de ça qu'on a eu la danse des canards, le petit bonhomme en mousse, la lambada. Et donc, dans notre livre, Par amour parce qu'il l'aime, Nicolas Sarkozy aide Carla Bruni à enregistrer une espèce de compile de chansons de marin type le ton petit navire. Et dès qu'elle tient le tube, ça a du succès. Le problème, c'est que Donald Trump va voler le tube pour essayer de se faire réélire. D'où, et ça se termine au Capitole.
D'accord.
Voilà, j'ai tout raconté, vous n'avez plus besoin d'acheter ce tout.
Mais achetez le rabbin.
Et personne ne peut résister à la puissance de ce tube, puisque même François Hollande, dès qu'il l'a en main, moi président.
Ben voilà. C'est-à-dire que même François Hollande, qui est la rectitude et le bien incarné, même lui, cède à la tentation de redevenir président.
C'est la tentation du micro, c'est ce qu'il dit. On peut pas résister quand on est derrière.
Mais après, ils ont un truc super, mais là,
ils sont
meilleurs que nous, c'est quand ils arrivent pas à redevenir président, ils deviennent des trolls. Oui. C'est-à-dire qu'ils sortent des livres, ils savent plus comment torpiller le boulot des autres, et ça me les rend très sympathiques.
Mais justement, qu'est-ce qui vous attire chez les politiques, l'un comme l'autre, Mathieu Sapin? Qu'est-ce qui vous attire dans le milieu politique? C'est le pouvoir, tout simplement?
L'argent, non, ils t'ont payé.
Non, l'argent, je crois pas. Je pense qu'au contraire, l'argent, il pourrait gagner plus d'argent en faisant d'autres métiers plus lucratifs.
Mais c'est généralement ce qu'ils font après leur carrière de président.
Voilà. Non, moi, ce qui me plaît, c'est la folie de ce milieu, parce que pour faire ça, il faut quand même être un peu timbré, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai toujours professé.
Faire ça, normalement, c'est être au service de la communauté,
mais je pense qu'il y a un gros malentendu.
De la France, du pays. Ah bon?
Voilà. Il y a ce malentendu sur qu'est-ce qui motive un politique. Alors officiellement, oui, c'est le bien commun, mais on peut pas s'empêcher de penser que quand même ils pensent aussi à eux-mêmes et à comment. Mais c'est pas un truc d'argent, c'est un truc d'ego, exactement. Ouais.
Entrer dans l'histoire, marquer son temps.
Et d'ailleurs, c'est très difficile quand une fois qu'ils sont plus sur l'avant-scène de se faire oublier. Ils ont beaucoup de mal avec ça. Et on a des anciens présidents qui sont encore jeunes. Et qui ont du mal à... Voilà,
il y a des dépressions, il y a des passages à vide après.
Ouais. Et vous, Jared Sfar, ce qui vous attire avec les politiques?
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la nostalgie de la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on déteste nos présidents, mais dès qu'ils sont virés, on les adore. Et on a l'impression qu'on passe dans le monde d'après en deux semaines.
Ça, c'est un mal français. C'est-à-dire que c'est autant valable sur, vous parlez de chansons les plus ringardes. De leur vivant, ils étaient conspués, les chanteurs de la queue leu-leu, même jusqu'à Claude François, qui devient maintenant cultissime. Il n'y a pas une soirée réussie sans qu'on ait un Claude François
On retire le réussi, hein.
Pardon?
Il y a des soirées réussies sans Claude François.
Non, mais pardon. Celle où je vais, non. Il faut qu'il y ait un Claude François. Et s'il n'y a pas Alexandre et Alexandrin, je me casse avant la fin.
Mais ça, c'est...
Oui, ça, c'est...
pour notre raison.
Blague à part, on a toujours ce côté, dès l'instant où quelqu'un meurt, c'est ah, il était génial, il était formidable, puis tout son vivant, c'est juste une merde, un ringard, et il faut s'en débarrasser.
Non, pas besoin de mourir. Chirac, à la fin, il était encore en vie, et tout le monde le trouvait super sympa.
85%. Mais François Hollande, il est à ça, clairement, en ce moment.
Pardon?
François Hollande, il a une cote de popularité, de sympathie, qui est élevée.
Pas encore.
Ah non, mais moi, j'ai vu un concert à l'Olympia où il y a eu une standing ovation au moment où François Hollande est rentré dans la salle pour assister au bon concert.
C'était le concert de qui?
Et il a chanté?
C'était Clara Luciani, si ma mémoire.
Il a pas chanté?
Non, il a pas chanté, il a applaudi. Mais il a pas dansé.
S'il avait eu le tube, il aurait chanté.
ce qui vous attire. Et finalement, c'est une forme de pouvoir que vous avez aussi quand vous créez des personnages, quand vous inventez des histoires, quand vous dessinez, vous avez le pouvoir. Vous êtes Dieu, sur votre feuille.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la bande dessinée serve à quelque chose. Et j'aime bien le feuilleton en bande dessinée. C'est-à-dire que la caricature politique en dessin unique, pour moi, c'est un genre qui s'est un petit peu ringardisé, enfin en tout cas dans lequel je trouve pas mon compte. Mais faire un feuilleton avec à suivre, et comme dans Tintin, en fait, moi j'essaie d'être aussi naïf que Hergé quand il écrit, c'est-à-dire je me mets pas au 30e degré. Je dis attends, c'est François Hollande, il est dans les services secrets, il y a des extraterrestres, qu'est-ce qu'il va faire? Et j'essaye d'écrire sans rigoler, d'une certaine façon. Mais
ce qui est difficile aussi, c'est d'être plus inventif que la réalité, parce que quand même là, toutes les semaines, il se passe des trucs sur le plan politique complètement
qui dépasse,
complètement débile,
qui dépasse la fiction.
Le clip, le clip de campagne de Zemmour,
c'est pas vous qui devez dire pardon, c'est lui d'abord qui a commencé par dire ça.
C'est lunaire.
Et en même temps, je sais pas ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu les uns les autres autour de ça.
J'ai adoré.
Mais moi, j'ai adoré parce que je me suis. Non, vous êtes vraiment, j'ai adoré parce que je me suis dit, c'est formidable à quel point il se tire une balle dans le pied, tellement tout ce qu'il condamne, ce sont des images en couleur, tout ce qu'il adore, sont des images en noir et blanc.
Oui, il y a plein de sous-textes.
Des images qu'il n'a pas payées, en plus.
En plus, il les a. on peut même dire c'est du vol, parce que voler l'image de quelqu'un, c'est une chose. Voler l'image réalisée par quelqu'un, c'en est une autre. Toucher à des œuvres artistiques, tout ça. Il y a des lois en France qui sont très précises là-dessus, mais ça prouve aussi, tu as raison, Alexandre, l'incapacité de ceux qui sont autour à comprendre ce qu'il faut faire et comment ça fonctionne.
N'en dites pas trop, on va le débriefer à la fin de l'émission, vous inquiétez
d'accord.
pas, comptez sur moi.
Okay,
Non,
mais c'est à imaginer en amont, c'est très difficile d'aller dans un truc aussi débile. C'est ce que je dis, c'est que les politiques, on peut compter sur eux pour trouver des trucs.
On peut aller plus loin en se demandant si ce n'est pas fait exprès pour que justement on en parle, pour créer une polémique et avoir des procès en disant, vous voyez, on attaque les ayants droit de Johnny m'attaque, de Barbara m'attaque, de Luc Besson, et ainsi de suite.
Tu vas loin, Nagui,
il y a une liste. Quand vous dites qu'une bande dessinée doit servir à quelque chose, il y a un côté utile au sens politique du terme, justement, mais au sens noble politique du terme.
Je pense qu'on s'est tous plantés sur Trump. Moi, je fais partie des gens qui...
On s'est tous trompés, quand même.
Voilà. Moi, j'ai ricané de Trump pendant toute sa campagne en disant il a aucune chance. Et ensuite, tous les gens qui ont fait des caricatures de Trump n'ont fait que faire sa pub. Donc, aujourd'hui...
Alors on vient de parler de Zemmour,
Est-ce que, pour l'instant, on n'a pas caricaturé Zemmour dans notre bande dessinée? Moi, je crois qu'aujourd'hui...
Il y a les Gargamel,
comme la caricature, ils se présentent déjà comme des caricatures. Donc, il n'y a rien à souligner. En revanche, il y a un sous-texte à peut-être raconter. Il y a quelque chose. Je cherchais quoi dire sur Zemmour sans lui faire de la pub. J'ai trouvé, comme il y a la nuit de cristal, j'ai trouvé le plafond de cristal. Il n'arrive pas à avoir davantage de voix.
Clairement.
Donc ils essayent d'aller donner des pots de vin pour avoir davantage de prières de rue, davantage de collines du crack, davantage de machin. Parce que s'il n'y a pas assez de collines du crack, ils ne dépassent pas tant de. Mais j'essaie d'être aussi tordu qu'eux. Parce que si on a caricaturé Trump, on lui a fait des affiches de pub pendant 4 ans. Donc Zemmour, il y a un petit.
Arrêter d'en parler parce qu'on lui fait de la pub. Vous parlez des prières de rue, l'enchaînement est tout trouvé avec la Bible pour les chats. Et ce chat du rabbin dont vous publiez un nouvel épisode, vous avez autant, je pense, d'attirance pour la lecture de la Torah par ce chat que pour toutes ces femmes qui sont autour, parce que on sent que votre crayon se fait. C'est plus un crayon quand vous dessinez les femmes dans votre bande dessinée, c'est une caresse.
Voilà. C'est beau. Voilà, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai que
vous les aimez les femmes que vous dessinez.
Bah, oui, alors maintenant oui, mais non, quand j'étais petit, mais non, parce que moi je viens d'une famille originaire du Maghreb, donc il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de très jolies brunes dans ma famille qui m'intéressaient pas du tout parce que moi j'aimais que les blondes aux yeux bleus comme on voyait dans les westerns, mais du coup je savais bien les dessiner parce que j'avais pas l'émotion du type qui moi je m'identifiais. Bon, alors j'ai remarqué que ça présentait un intérêt pour certaines lectrices et lecteurs, donc j'y vais, puis j'aime bien être le petit chat. Et puis c'est vrai que j'aime bien la Bible. C'est alors on me dit mais merde, tu vis religieux et tout. Non, c'est un bon bouquin et je suis complètement incohérent.
Il y a des contradictions quand même.
Je suis pas croyant, j'ai le nez dans la Bible, je fais des prières, j'attends. Enfin bon, donc cette incohérence-là, à 50 ans, je l'accepte.
Oui, enfin, et aussi, c'est un livre de fiction pour vous, la Bible, parce que vous dites il y a des contradictions, il y a des choses surprenantes. Est-ce qu'on est dans le même esprit que le ministère secret, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas totalement crédibles?
Non, mais c'est qu'est-ce qu'on fait du charlatan.
Je parle des miracles, puisque ouais, c'est le sujet de votre bande dessinée.
C'est le sujet, c'est que le chat est très content parce qu'il pense qu'il a trouvé le numéro de téléphone de Dieu. Et évidemment, alors il le cache et les gens viennent lui dire mais tu t'imagines bien que tu vas pas téléphoner à Dieu et il va répondre. Et lui, il répond bah alors parce que toi, tu t'agites avec un livre en psalmodiant des trucs et tu crois que Dieu va t'exaucer. Et c'est tout le sujet du livre. C'est est-ce que la religion c'est le Père Noël, c'est-à-dire qu'on demande des cadeaux, on les a, ou est-ce qu'au contraire c'est une manière d'analyser le réel comme on le ferait dans la dramaturgie, dans le théâtre, dans la littérature.
Et à quel moment fait-on appel à Dieu? C'est généralement dans des moments où on n'est pas au top de sa forme.
Ben oui, je l'ai vu, je suis pas croyant, sauf quand je suis à l'hôpital. L'an dernier, j'étais à l'hôpital, j'ai pas arrêté de faire des prières. Voilà. Quelqu'un m'a dit, les religieux, quand ils t'attrapent petit, tu peux plus jamais t'échapper. Sans doute, j'ai ça dans la tête. Quand ça va mal, je fais une prière.
Mmh. Est-ce que votre trait de crayon, avec le temps, voire avec l'empathie, se modifie? C'est-à-dire que vous avez, par exemple, dit apprendre à aimer ou à dessiner différemment les filles. Est-ce que le chat, entre la première fois où vous l'avez dessiné, et maintenant à évoluer?
Alors moi je crois que oui, mais les gens me disent oh c'est génial, c'est exactement pareil qu'il y a 20 ans, donc je peux pas vous dire.
Si vous le faites évoluer, c'est en quoi? Parce qu'il est tout chétif en même temps, il est maigrichon.
J'y passe plus de temps qu'avant, mais ça se voit pas. Et comme maintenant je suis prof aux Beaux-Arts, j'explique des trucs à mes élèves, j'essaie de faire ce que je leur explique. Quand j'ai dit soigne un peu ton crayonné, alors moi je fais un peu comme eux, je soigne un peu. Mais je suis pas sûr que ça se voit.
C'est vous qui prenez des cours aux Beaux-Arts,
oui,
c'est ça?
Oui, je me dis tu peux pas dire ça aux gamins.
Suggestion.
Le chat du rabbin d'un côté, la Bible pour les chats dans la collection Poisson Pilote, et le ministère secret, le tome 2, Trembler en France.
Tremblera en France. Parce qu'il y a un jeu de mots déjà, Trembler.
La ville est le verbe.
Oui. Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'en dehors de Paris, il y a des villes. Et il y en a une qui s'appelle Tremblay.
C'est marrant, je sens que ça va être à toi, Alex.
Pour ta dernière.
Et tu vas être bien lancé. Ah,
malheureusement, voici Alexis.
Bonjour à tous.
Bonjour Tatoua.
Hier, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle 14 x 8000. Bon, ben ça fait 112 000. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont pas donné la réponse. 14 x 8000, c'est un documentaire dans lequel on suit un alpiniste népalais qui a pour projet de gravir les 14 plus hauts sommets du monde en moins de 7 mois. Parce que ça a déjà été réalisé, mais en 7 ans. Donc je tombe là-dessus, je me dis, allez, joli projet. Regardons ce jeune illuminé crapahuté dans les montagnes. Sauf que plus j'avance dans le documentaire, plus je suis mal à l'aise et je me dis, est-ce que c'est pas un projet complètement con, son truc? Je m'explique. Hein. Au début du documentaire, il dit, je veux le faire en 7 mois pour inspirer les gens. Mais de quels gens il parle quand il dit ça? Inspirer les gens. Dès qu'un mec à tendance suicidaire se lance un défi ou il a une chance sur deux de crever, il dit ça, quoi. Je vais traverser l'Antarctique sans chaussures pour inspirer les gens. Elle abandonne l'inspiration, quoi. Et les journalistes, ils sont là, ils relaient l'information. Pourquoi toujours vouloir valider un kiff perso par une justification sociale? C'est comme Greta Thunberg. À la base, c'est juste une gamine qui voulait faire du voilier. Mais bien sûr. Non, mais c'est la mode, voilà. Gravir des sommets de plus de 8000, on réserve sur Internet, on passe aux vieux campeurs et c'est parti. Je sais pas si vous avez vu cette photo où on voit des centaines de grimpeurs attendre leur tour pour accéder au sommet de l'Everest. Je me suis renseigné en haute saison. Il y a jusqu'à 1000 grimpeurs par jour sur les pentes de l'Everest. C'est le Black Friday à la Fnac, quoi. Et qui c'est qui garde les gosses en attendant? Toujours les mêmes, les femmes. La femme, elle a toujours le même rôle dans les grands exploits sportifs. Attendre et prier pour que son mari revienne. T'as jamais une femme qui laisse ses gosses et qui dit « Bon, ben, je reviens dans 9 mois, bon courage avec les jumeaux, j'ai mis du lait dans une tasse. » Enfin, tu vois, l'alpiniste en question, dans le documentaire, il dit « Ma femme est formidable. » Ma remarque montrait plus qu'il la trouve chiante, quoi. Ensuite, il va voir sa mère et lui dit « Je lui dois tout. » elle a beaucoup de mérite parce qu'elle a, j'ai été un enfant terrible et j'ai beaucoup fait souffrir ma mère. Donc 30 ans plus tard, t'as pas envie de la laisser se reposer un peu, ta mère, plutôt que de continuer à la faire chier là avec tes projets. En plus, elle est cardiaque, quoi. Non, mais je comprends l'ivresse des profondeurs et de l'altitude, parce que ce genre d'effort, ça provoque un truc, c'est sûr. D'ailleurs, il dit, je grimpe pour savourer chaque instant de ma vie. Là, j'ai envie de lui dire, as-tu essayé le hamac? Hein, un hamac à Pérignia, c'est savoureux aussi. Hein. Et quand même, vachement moins dangereux, quoi. Parce que les sommets, c'est l'hécatombe. Hein. Dans le reportage, les membres de l'expédition passent à côté d'un type qui est en train d'agoniser tout seul. Et donc, ils tentent de le sauver avec de l'oxygène, mais au bout de quelques minutes, ils se rendent compte qu'ils vont tous mourir s'ils restent avec lui. Donc ils sont obligés de partir en l'abandonnant. Et c'est terrible comme moment, mais on a presque du mal à avoir de la peine pour les gens qui restent là-haut, quoi. On a envie de leur dire, c'était un peu évitable, non? Et le pire, c'est qu'ils le disent eux-mêmes. Il n'y a aucun moment agréable pendant l'effort. C'est le pire, quoi. Le plaisir, c'est juste de pouvoir dire après, je l'ai fait. Comme les manèges de Marcel Campion, quoi. Pas besoin d'aller si loin, quoi. Donc c'est que de l'ego, en fait. Et de l'égoïsme. Parce ils font flipper leurs proches et ils mettent la vie en danger de ceux qui les accompagnent. Et c'est là que tu vois qu'en fait, ce genre de défi, c'est une chaîne de maillons qu'accepte le délire de celui qui lance le défi. T'as la femme qui accepte, les Sherpas qui l'accompagnent en se demandant s'ils vont pas mourir. Ensuite, il y a des pilotes d'hélicoptères qui prêts à risquer leur vie pour sauver la leur en cas de problème. Et il y a le personnel hospitalier qui va devoir gérer des cas d'œdème cérébraux en urgence, des amputations, tout ça. Et puis au final, il y a moi, le couillon du système, qui regarde ça sur Netflix, dans mon lit, enfin dans mon clic-clac qui fait plus que clic. Et au final, à la fin du documentaire, malgré tout, je me dis, ça doit être sympa l'alpinisme. Je me ferais bien un sommet l'année prochaine. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont un peu fous. Mais effectivement, les fous, on en a un peu besoin parce qu'ils nous inspirent.
Merci Alexis Le Rossignol.
Et Alexis Le Rossignol, tu es sur scène aux Républiques les jeudis et samedis.
Exactement.
Le ministère secret de Tremblay en France, dont quelques dessins étaient publiés dans Spirou, hein, c'est ça si,
Toutes les pages sont parues dans Spirou l'été dernier. Ouais, ouais.
C'est ça. Nous recevrons tout à l'heure Morgan Di Salvia, rédacteur en chef du journal Spirou, et qui viendra nous parler justement de ce magazine culte. Quand deux dessinateurs... J'ai ouvert d'ailleurs cette émission avec un blind test avec deux chanteurs, parce qu'on n'est pas surpris quand il y a des duos de chanteurs, on se dit ouais, bah deux chanteurs qui chantent ensemble, c'est normal. Deux dessinateurs qui bossent ensemble, c'est quelque chose déjà de plus rare.
Et deux dessinateurs qui chantent ensemble, c'est encore plus.
Sauf que.
Sauf bien que vous en parliez.
Sauf qu'il y a une répartition de tâches, en l'occurrence. Dans le ministère secret, c'est vous, Mathieu, qui dessinez, c'est Joanne qui en est le script, le narrateur, voilà. Alors que dans Le Chat du Rabbin, vous faites tout seul. Est-ce que quand même. Vous parlez du dessin. Est-ce que vous échangez sur, que sais-je, les couleurs, les ambiances, les...
Oui, alors d'ailleurs, les couleurs, on a oublié de citer Walter, qui est le coloriste talentueux.
Il a du boulot en plus, parce que c'est vraiment...
Ah ouais, ouais. Secret, ouais.
Ah ouais, c'est très, très, très...
Qui nous écoute coloré. Du Japon, il habite au Japon, Walter.
Très bien. Et alors donc, à quel point vous échangez sur le graphisme ou sur l'ambiance?
Bah, Joanne et moi, on se connaît très bien, puisque ça fait 20 ans, cette semaine, qu'on est en atelier, enfin, qu'on a commencé à travailler en atelier.
Trop mignon.
Voilà. Joanne était déjà un Jedi du dessin. Moi, j'étais un nain.
Jedi et un nain.
Et voilà, c'est marrant cette fascination que vous avez pour Joanne qui ne vous rend pas du tout.
Ouais. Il dit pas mais non.
Il a eu une petite mimique. Où vous
non, avez... J'ai pas dit mais non parce que je suis fatigué, mais j'ai dit mais non. Enfin,
vous validez tout ce qu'il dit.
Non,
tout.
Vous n'étiez pas d'accord avec cette
mais
description.
Non, j'ai toujours été fasciné par les autres dessinateurs et Mathieu a mis en ligne la semaine dernière notre petite annonce de Libé d'il y a 20 ans où Christophe Blain, Riyad Satouf, Mathieu Sapin et Joanne Sfar cherchent un atelier. Moyennant quoi, il y a eu plein de réponses la semaine dernière de gens qui me proposaient un atelier.
Il était temps. Oui. Il était temps.
Et donc tout ça pour dire que qu'on est habitué à travailler ensemble et à échanger. Et voilà. Et donc sur le ministère secret, Joanne fait ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire qu'un brouillon de l'histoire, mais c'est déjà du dessin. Et moi, j'ai juste à faire ça un peu plus propre. Et puis voilà.
C'est d'accord, simple. Parce que vous n'avez pas exactement le même trait, la même manière de dessiner. Je me demande
non,
même si...
pas du tout.
Non, non, mais ça se fait assez naturellement.
C'est une manière élégante, pas... je voulais pas dire pas du tout, mais t'as raison. On n'est pas du tout, ça n'a rien à voir.
Moi, c'est plus soigné.
On va le dire. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est, même dans la manière de gérer les angles et les rondeurs, les épaisseurs et les finesses aussi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas comment décrire. Ça se sent d'ailleurs que je ne sais pas comment décrire le trait de l'un ou de l'autre. Mais on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est plus anguleux, l'autre qui est plus rond. On peut pas dire qu'il y en a un.
Oui.
Non. On ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit plus dans l'esprit, j'allais dire, des Gottlieb ou des Astérix. Et un autre plus, je sais pas moi, Blueberry.
Mais c'est quand même, on est quand même dans une famille de dessins, je pense, comico-réaliste, quoi. Je sais pas comment dire.
Oui, puis j'ai l'impression qu'on s'inscrit quand même dans une tradition de bande dessinée, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est en quand même pas mal référencé. Quand Mathieu dessine Le Ministère Secret, il y a Hergé en tête, il y a Blake et Mortimer en tête, et il y a peut-être même les Watchmen par moment, et on joue consciemment avec ça. Quand je fais Le Chat du Rabbin, peut-être que je pense à Sempé, peut-être que je pense à Chagall, j'en sais rien, mais on dessine jamais sans penser à un autre dessinateur.
Ouais, c'est vrai que c'est une chaîne d'influence, ça c'est
mais
sûr.
Mais le fait que, par exemple, le Ministère Secret soit plus lumineux, coloré, plus clair, globalement, et que Le Chat du Rabbin soit plus obscur.
Bah oui.
C'est parce qu'il y a moins de noir sur la.
Joanne, il remplit cette phrase très vite.
Il remplit beaucoup.
Il n'y a pas assez de diversité en politique.
Voilà.
Joanne, il remplit beaucoup. Il utilise plus d'encre de Chine. C'est-à-dire que moi, ma BD est plus économique au dessin.
On va recevoir donc tout à l'heure Morgane Di Salvia. On parlera de Spirou et d'un spécial Noël qui arrive justement pour vos Noël. Bonne idée de cadeau. Le Chat du Rabbin et Le Ministère Secret Tremblay rend France. Le tome 2 est arrivé. Parlons de musique. On va commencer avec vous, Joanne Sfar. Vous parlez l'arabe ?
Pas du tout. J'aimerais bien.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette chanson alors ?
Ça, c'est Lili Boniche. Alger, c'est une de mes chansons préférées. Lili Boniche, il faisait presser ses disques à Paris. On les lui ramenait à Alger. Il les écoutait à Alger parce que ça se vendait que là-bas.
On est en 2002, Leïla.
Et c'est le début de l'aventure Le Chat du Rabbin.
Ouais.
Aujourd'hui, on en est au 11e tome, donc c'est vraiment une série au long cours. Et tout est venu d'Imhotep.
Oui, j'ai eu ce chat-là qui avait une drôle de tête et qui disait rien et c'était pas juste.
C'est pas Ayam hein, quand on dit Imhotep.
Non, c'est un petit chat.
Là, c'était un chat oriental qui s'appelait comme ça.
Ouais, qui était bizarre, qui était étrange.
Bah, il avait l'air un peu de E.T. comme ça, puis il me regardait. Et bien qu'à force de dire il lui manque que la parole, on finit par le faire parler quand on est dessinateur.
c'est la phrase qui vient régulièrement ouais. Quand on parle des animaux.
Et il était fou amoureux de votre épouse.
Oui, c'est vrai. Et quand elle voulait regarder la télé, il se mettait devant elle, il avait la truffe contre son nez. Et ça, j'ai repris dans le chat ces postures-là parce que.
Je croyais que vous faisiez la même chose quand on voulait regarder la télé.
Moi, j'ai constaté, quand un mec fait ça, c'est mal pris. Ta meuf regarde la télé, tu te mets devant.
Tellement.
Et quand le chat le fait, oh, qu'est-ce qu'il est mignon.
Bah oui.
Donc, une fois que tu comprends que le chat a le droit de faire tout ce qui n'est pas permis, parce que moi, j'ai essayé de pisser devant la porte à la maison, ça a été très mal vécu. et lui, c'est toujours, non, mais le pauvre, c'est parce que t'as pas ouvert. Il y a toujours une raison. Et je me suis dit, moi, je vais dessiner des chats, et puis voilà.
Et vous vous êtes inspiré aussi de votre grand-père maternel, je crois, pour le chat.
Oui, parce qu'il était très provocant. À chaque fois qu'on allait il a fait étudier pour être rabbin, et comme toute sa famille est morte dans la Shoah, il est devenu très anticlérical. Et quand on allait dans un resto cachère, il écrivait des gros mots en hébreu sur la nappe pour emmerder les rabbins, qui ne les lisaient jamais, de toute façon. Et il arrêtait pas d'insulter les rabbins. Chaque année, on recevait pour le nouvel an juif, bonne fête, 5700 et quelques, parce que le monde a 5700 ans, envoyez de l'argent à telle bonne œuvre. Et lui répondait, bon, vous faites honte à tous les juifs avec le carbone 14, on arrive
mais
à prouver
non.
Que le monde a des milliers d'années. Voici un chèque, mais arrêtez de nous faire honte. Mais évidemment, la plupart des punchlines du chat viennent de mon grand-père.
Quant à vous, Mathieu Sapin, en 2002, vous écoutiez... Oh, j'ai une différence de culture. Hein. Too Many DJs, tellement bon ça.
C'est super ça.
Mais tous les albums.
Bah oui.
C'est génial.
Faut pas écouter en voiture.
Et c'est la naissance d'un super héros, on l'a dit, qui carbure à la bière. À la super murge bière, super murgeman. Un délire de copains, j'imagine. Oui. Avec une...
Faut espérer parce que seul c'est triste.
Oh, ça peut venir seul. Avec autour de l'acteur Bernard Ménès.
Ah là là, vous avez retrouvé ça. Il le sait pas, le pauvre. Oui. Non, j'ai pas l'explication.
Faut qu'il est au commissariat, monsieur l'agent.
Non, c'était un super héros inspiré du fantôme du Bengale, mais version Destroy à la bière.
Et pourquoi Bernard Ménès?
Bah oui, pourquoi lui?
Mais je sais pas pourquoi.
Oh,
il m'avait, oui, voilà, cette chanson qui m'agaçait. Et en BD, c'est vrai qu'on peut se lâcher assez facilement. C'est ce qu'on fait avec le ministère secret. C'est-à-dire que la moindre idiotie qui nous passe par la tête, on en fait un truc. Et après, c'est quand c'est publié et que c'est lu qu'on se rend compte que il faut peut-être un peu réfléchir.
Voilà. Le poids que ça représente. 2004, Joan Sfar, vous écoutiez. Masia Sound System. Alors, au-delà de cette chanson qui parle de couleur et de la couleur bleue, qui est un peu celle de votre chat, je sais pas si c'est pour ça que vous avez choisi cette chanson.
Parce que j'étais dingue du Masia Sound System.
Est-ce que vous écoutez la musique en travaillant?
Oui, tout le temps. Oui, tout le temps. J'aime pas le silence, j'ai besoin de bruit, j'ai besoin de musique. Ça, dès que j'étais à Paris et que je trouvais qu'il faisait froid, j'écoutais le Massilia Sound System ou Nux Vomica, enfin des groupes niçois ou marseillais. Et ça me faisait du bien, j'aimais bien.
Et on vous retrouve dans Charlie Hebdo à cette époque-là, où vous tenez une page hebdomadaire, Mon carrier d'éveil, entre 2004 et 2005, avec une totale liberté, j'imagine, dans
Charlie
Hebdo.
Oui, j'ai passé un an et demi à Charlie Hebdo à essayer de faire des pages sur les philosophes présocratiques, qui étaient un peu décalés. Et je suis jamais parvenu à faire du dessin politique, parce que je savais pas le faire. Et je me rappelle de toutes ces sessions où je me retrouvais entre Charb et Luz, qui avaient des idées extraordinaires, et moi j'avais jamais d'idées. Donc je suis parti avant qu'ils me virent, à vrai dire, mais je pense que tout le monde s'était rendu compte que j'étais pas tout à fait à ma place.
Mathieu Sapin, vous écoutiez dans ces années 2004 Metallica. Dans la musique, vous aimez la force, le muscle, la transpiration.
Non, mais c'était à l'époque de l'atelier dont on parlait tout à l'heure, et avec Riyad Satouf, on était la partie métal de l'atelier. il y avait la partie Massilia Sound System et puis Lily Boniche, et nous c'était plus métal. Mais voilà. Mais
et Laura et Patrick.
Et Laura et Patrick, tout à fait. Ah, bravo, c'est une BD totalement méconnue qu'on a commise Riyad et moi. Riyad au scénario et moi au dessin, et c'est un mix parfait de ces histoires d'ado riadiennes et de mon dessin. Ça se passe sur une île aussi, donc il y a
un naufragé.
C'était une BD très marrante qui a eu aucun succès.
C'est chez Lito, l'éditeur c'est Lito, donc
oui,
peut-être que
mais
ça se retrouve.
Qui à ma connaissance n'a pas.
n'est pas au courant.
Si ça ressortait aujourd'hui, ça ferait un carton, non?
Ou pas?
C'est possible, je ne sais pas.
Non, mais c'est bien.
Non, mais c'est bien aussi d'avoir des trucs comme ça.
La vraie question, c'est est-ce que c'est un problème de notoriété, d'être connu et reconnu, ou est-ce que simplement vous y avait des atermoiements et vous vous dites ok, c'est vrai que le produit n'était pas vraiment fini.
C'est difficile à dire. Moi, j'ai pas trop le recul là-dessus. Je pense que. Qu'à l'époque, c'est certain que ni Riyad ni moi n'avions la même audience qu'aujourd'hui, mais non, l'histoire était super, moi je l'aime bien.
Bah alors publiez là à nouveau,
va ressortir.
Vous avez le droit non de la republier.
On va creuser ça.
En 2012, Joan Sfar, vous écoutiez Gainsbourg.
Je vais être content quand tu seras là, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille.
C'est clair, c'est que dans votre musique, il faut toujours qu'il y ait du soleil quelque part.
Ouais. Ouais, you rascal you. Mais non, mais c'est vrai que c'est embêtant quand on fait le film sur Gainsbourg. Parfois, on se dit, je vais arrêter d'écouter du Gainsbourg parce que ça peut vacciner, quoi. Puis moi, non, j'ai continué d'en écouter.
Et de réentendre et de réécouter, ça vous a fait découvrir d'autres choses? C'est-à-dire que à force d'écouter le même morceau, peut-être on descend dans des couches
et de voir
dans un millefeuille pour mieux comprendre ce qu'il a voulu faire
Il y a une personne qui a pas été assez honorée dans le film de Gainsbourg, c'est Olivier Davio, mon compositeur musical, parce qu'il a pas juste adapté, il a recomposé 70 morceaux de Gainsbourg. Il y a un vrai travail de compositeur sur ce film, et il y a 70 morceaux. Alors de le voir lui travailler, j'ai redécouvert des morceaux que j'entendais depuis tout petit.
Gainsbourg, vie héroïque, rapporte 3 Césars. Et en 2012, tout à l'heure, Alex Cheminette, l'a dit, vous avez remporté un autre César, le César du meilleur.
Cheminette à vie maintenant.
C'est trop mignon. Le César du meilleur film, pardon, d'animation pour Le Chat du Rabbin. C'est pas du tout la même dynamique. Ça doit être un travail aussi considérable, l'animation, par rapport à la réalisation d'une fiction, même si elle est inspirée de la vie d'un être déjà existant.
Ouais, pour un auteur de BD, bizarrement, le dessin animé, c'est plus difficile. Parce qu'un film avec de vrais acteurs, bah, on leur dit ce qu'on veut, on fait des dessins aux techniciens, on se comprend. L'animation, c'est un faux ami, parce que tout le dessin qu'on connaît en bande dessinée, bah, c'est l'inverse en dessin animé. Je peux pas l'expliquer là en deux mots, mais on met des années à se rendre compte qu'une anatomie, ils la font pas pareil, une expression non plus, même une ligne, ils la font pas pareil.
C'est quoi, c'est le problème de la 3D aussi, d'avoir...
Non, c'est qu'on, non, on construit pas un personnage de la même façon. En animation, on va travailler presque avec des boules, en BD, on fait des squelettes. Enfin, c'est une, voilà. Et puis, j'ai fait les deux en même temps.
Moi, je suis choqué si j'ai compris ce que j'ai compris.
Non, j'ai fait les deux en même temps. Gainsbourg et le chat, les deux productions ont été concomitantes. Et après, j'ai plus rien fait pendant 10 ans, donc voilà. Et c'est très bien.
Et pendant ce temps-là, Mathieu Sapin, écoutez Thomas Fersen.
On dit qu'elle s'appelle Mireille, que son mari c'est Mathieu, qu'elle vient tout droit de Marseille pour le plaisir de Mathieu, on voudrait la protéger.
Vous ici, ça va, prenez un morceau qui s'appelle Mathieu.
Oui, mais c'est... Non, parce qu'on se connaît. Thomas Fersen, je l'ai rencontré sur le tournage de Gainsbourg, là, du film de Johan. Et c'est quelqu'un d'adorable et de très talentueux. Et comme il habitait pas loin de l'atelier, justement.
Donc c'est vous dans la chanson ?
Alors je ne sais pas, donc je me demande. Mais parce que j'ai pas de femme qui s'appelle Mireille, mais oui.
Est-ce que vous avez un pacte au sein de cet atelier ?
Je croyais que vous aviez dit un pax.
Un pax, ouais, on n'est pas assez à théâtre.
Ça peut pareil.
Non, est-ce que vous avez un pacte? Un pacte de réussite, un pacte de...
Non-agression.
D'entraide, de s'entraîner pour aller au plus...
Il n'y a pas de pacte, mais c'est vrai que c'est... Maintenant, ça fait longtemps, comme on l'a dit, et forcément, on est influencés les uns par les autres, et on se parle tous les jours.
Et pouvez-vous accueillir de nouvelles plumes et de nouvelles têtes dans la bande?
C'est-à-dire que ce serait un peu bizarre, parce que ça fait tellement longtemps qu'on est habitué à dialoguer ensemble que forcément, quelqu'un d'extérieur, c'est pas pareil.
Dans d'autres contextes, moi je sais que le fait de voir au Beaux-Arts des jeunes dessinateurs et dessinatrices de BD, j'apprends plein de choses. Le fait de, quand j'ai pu être éditeur, voir de jeunes auteurs, j'ai appris plein de choses. Mais ce qu'on a avec Christophe Blain, avec Mathieu, avec Riyad, c'est plus une camaraderie. En fait, on parle très peu d'art. On dit des conneries quand on se voit.
C'est bien.
Champions internationaux de bêtises.
Ça, nous, on peut le comprendre.
Mais des fois, on se prend la tête aussi. Hein. C'est pas toujours un long fleuve tranquille.
Mathieu, c'est le plus saint d'esprit de la bande. Ou alors il le cache. Apparence. C'est comme les tueurs en série, on va découvrir le soir.
C'est Dexter, en fait.
Mais
moi, il me fait très peur. Morgane Di Salvia, bonjour. Morgane, merci de venir à ce micro. Rédacteur en chef du journal Spirou, dont vous avez édité en épisode Le Ministère Secret 2 dans cet hebdomadaire. D'abord, il faut être dessinateur pour être rédacteur en chef de Spirou ?
Non, je pense que d'abord, il faut être un lecteur, il faut avoir été passionné par la lecture de ce journal, et ça a été mon cas. J'ai commencé à lire ce journal il y a 30 ans, et puis à force de passion, on arrive parfois à la tête de revues comme celle-là.
Ouais, c'est culte, non, d'être rédacteur en chef de Spirou, c'est le genre de truc, quand on est gamin, on ne peut pas rêver d'être rédacteur en chef.
Évidemment, il y a très peu de gens qui ont eu la chance de faire ce job-là, donc évidemment, c'est un job culte, et c'est surtout une responsabilité, parce qu'il y a un héritage, une tradition de Spirou à entretenir, à continuer à faire les meilleures bandes dessinées possibles pour la famille.
Est-ce qu'il y a un esprit, est-ce qu'il y a une baseline que l'on pourrait écrire en dessous de Spirou ?
Bah, c'est un journal joyeux, c'est un journal familial, et c'est un journal qui propose des bandes dessinées pour tous les âges, en fait. Je trouve que ce qui est intéressant dans Spirou, c'est qu'on vit une époque où tout est très calibré dans ce qu'on consomme culturellement. Vous avez votre chaîne sur votre chaîne musicale, si vous êtes dans un service de streaming, à Netflix, etc. Ce qui n'est pas le cas dans Spirou, on trouve de la lecture pour tous les âges et pour tous les goûts.
Comme le monde de la BD se porte plutôt bien en termes de vente, est-ce que le journal, parce qu'on sait par contre que les journaux, les hebdos souffrent du numérique, souffrent des applications et d'un mode de consommation de plateforme plus qu'autre chose, comment attirer l'attention, justement?
Je pense qu'on propose quelque chose de différent et de décalé, parce que c'est un moment aussi de déconnexion. Quand on lit son journal, on n'est pas face à un écran, on a un rapport intime au papier.
Tactile,
ouais. Oui, c'est ça. Je pense que ça joue vraiment beaucoup dans le plaisir qu'ont les lecteurs à nous retrouver. Et puis, il y a le côté feuilletonnant. Et c'est pour ça que Le Ministère Secret était parfait pour Spirou. C'est qu'il y a le côté feuilleton, le côté la suite la semaine prochaine, qui reste, je pense, très, très excitant pour les lecteurs.
Est-ce qu'il faut aussi et comment choisir des nouveaux talents? Parce que vous n'avez pas continué avec ces deux vieux là, il y a un moment où il va falloir qu'ils s'arrêtent. Donc comment vous allez chercher les nouveaux talents? Est-ce que vous prenez des risques aussi en publiant des inconnus?
Bien sûr, oui, c'est un journal qui est aussi un laboratoire pour les éditions Dupuis. Donc on essaye chaque semaine de trouver les stars de demain de la bande dessinée, toujours dans cet esprit joyeux et d'humour, quoi. Donc oui.
Sorti mercredi dernier, le numéro spécial Noël. double numéro oui. avec des jeux en plus dedans. Moi, j'ai grandi, mais je fais partie de cette génération Spirou. Je trouve ça tellement génial. Ça marche essentiellement par abonnement parce qu'on
oui,
s'attache.
Oui. Ben, disons que par abonnement, ce qui est chouette, c'est qu'on l'a à l'avance. On est sûr d'en rater aucun. Bon, ben, on a vécu, ça vous aura pas échappé, une année et demie compliquée ah niveau bon niveau presse, niveau fermeture, etc. Donc l'abonnement est sans doute la meilleure formule. Oui. Et puis ce numéro Noël, fort, c'est celui. Ouais.
Abonnez-vous.
Bien emballé. Nagui m'a tendu la perche. Hein, donc ah bah, je l'ai agrippé.
C'est quoi, sa spécialité, c'est quoi le cadeau? Il y a une montre, un truc?
Il y a une montre, ouais, c'est pour le moment, c'est la montre. Ouais,
c'est vrai, il y a une montre?
Pour le moment, ouais, il y a une montre. Ouais. Merci à notre service marketing. Ouais. Non, mais le numéro Noël, c'est un des plus fascinants à composer parce qu'il y a un esprit joyeux. Et on peut tordre un peu la tradition de Noël aussi avec tous les styles sur 100 pages. On peut faire de l'humour, on peut faire de l'émotion, on peut faire vraiment plein de choses et plein de graphismes différents aussi. Donc c'est,
et puis l'abonnement, c'est... on peut le faire sur un an comme sur 6 mois. C'est-à-dire qu'on est
c'est un côté hyper pratique. Hein, là, on a vraiment le choix. Bien, Nagui,
non, 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 mais moi j'aime Spirou, donc je dirais toujours du bien de Spirou jusqu'à mon dernier souffle. Merci d'être venu. À ce micro, Morgane dit Salvia, abonnez-vous à Spirou et puis surtout, laissez-le traîner sur la table pour que les enfants s'en emparent.
Très bonne idée.
Aussi, exactement. Voici la semaine de Tom Villa.
Allez, Tom.
Le prix de la semaine, Tom, tu nous as un peu vendu la mèche, j'ai l'impression.
Un petit peu, aujourd'hui on va décerner le prix de la vidéo de la semaine, et dans cette catégorie, le nommé son. Premier et unique nommé, Éric Zemmour, qui, alors à la surprise générale, a annoncé sa candidature dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Dans cette vidéo, l'équipe d'Éric Zemmour a utilisé des tonnes d'images et de vidéos sans payer de droits d'auteur. Alors nous, on pense qu'ils ont fait une erreur, mais si ça se trouve, tout est calculé. Et en déplaçant la polémique sur un autre sujet, ça évite de parler du fond de la vidéo. Et en fait, ils nous manipulent, parce que nous, pendant qu'on commente le fait qu'ils n'ont pas demandé les autorisations de cette vidéo, on parle d'eux, ce qui fait que c'est à nouveau eux qui prennent la main en imposant leur récit, parce qu'en fait, ils anticipent nos réactions. Ou alors, ils sont complètement cons. Et le grand gagnant dans la catégorie de la vidéo de la semaine est Éric Zemmour.
Oh non, alors, quelle surprise.
J'avais dit que je n'en parlerais plus. Après ça fait 3 mois. Après j'ai fait comme lui, j'ai pas tenu ma parole. Et puis surtout je me suis dit qu'on en parle toujours en mal. Alors franchement, moi j'ai envie de faire une chronique positive. J'ai vu sa vidéo et j'ai envie de le défendre parce qu'il l'a dit dans sa vidéo.
Face à nous se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir.
C'est Stranger Things, enfin Ghostbusters pour les plus anciens. D'ailleurs, il le dit.
Ils vous diront le pire sur moi.
Ah non, non, il est hors de question de dire du mal de lui, il le fait très bien tout seul. Allez, on commence le débrief de la vidéo.
Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas.
Attendez, en régie, vous êtes con parce que vous m'avez mis la pub pour la prévention Alzheimer. C'était Zemmour, pardon, autant pour moi. Donc si on analyse, vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne les reconnaissez pas, bah ça c'est pour mettre en garde dans les fêtes des villages, genre fêtes de Bayonne. Les mecs, ils sont tellement bourrés, ils savent plus comment ils rentrent chez eux. Mais alors, on reconnaît plus nos villes, Eric, c'est dans la vie de tous les jours. Mais alors, est-ce qu'on a des exemples, des trucs qu'on connaît dans notre vie au quotidien? Il y a quoi comme exemple?
Vous prenez des métros et vous prenez des trains.
Ouais.
Vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports.
Oui.
Vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal.
Oui, alors vous parlez pour vous, Eric. Moi, tribunal, j'y ai jamais mis les pieds. Enfin, si, mais bon, c'était pour une série, donc c'était de la fiction.
Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance?
Oui.
Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit?
Oui.
Vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres? Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV.
Alors Louis XIV, j'ai pas connu Louis XIV, mes parents non plus, mes grands-parents non plus. Après j'ai vu Le Secret d'Histoire spécial Louis XIV et effectivement je suis d'accord, ça avait l'air génial. Enfin c'était génial quand t'étais Louis XIV parce que sinon, on faisait caca derrière les rideaux, l'espérance de vie était de 25 ans, il y avait la vérole, Lully est mort de la gangrène parce qu'il s'était niqué le pied sur un bout de fer. Non franchement, on a envie d'y retourner. Et avant il citait Jeanne d'Arc en exemple parce que moi j'aurais été à sa place, en référence historique, j'aurais plutôt utilisé Charles Martel en 732, je dis bien, j'aurais été à sa place. Parce que Jeanne d'Arc, la fin, côté barbecue. Bon, après, écoutons-le encore, parce que ce ne sont pas les seules références qu'il prend en exemple.
Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand.
Victor Hugo, putain, Les Misérables, ça c'est la déconne. On vit à 12 dans des baraques pour 3, Les Misérables, on va à la mine 20h sur 24, on a des concerts des poumons, on mange du pain rassis, puis Notre-Dame, cette rigolade. Quelle histoire, le bossu là qui est amoureux d'une bohémienne, et le curé va faire pendre parce qu'il est amoureux aussi, il veut pas, enfin bon bref, et du coup le bossu va mourir de chagrin dans les bras du cadavre de son son amour. Oh là là. Après, peut-être qu'il parlait de la vie personnelle de Victor Hugo. Ça, c'est, et là, cette rigolade aussi. Premier enfant de Victor Hugo, Léopold, mort à l'âge de 3 mois. Deuxième, une fille, Léopoldine, morte noyée dans la Seine à l'âge de 19 ans. Bon, allez, je voudrais pas qu'on rigole trop. On avance un petit peu dans la vidéo. Est-ce qu'il a été surprenant? Ça, c'est une vraie question. Sur des sujets, est-ce que, par exemple, il a pris des contre-pieds par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de lui?
L'immigration n'est pas cause de tous nos problèmes.
Ah, vous voyez, ah.
Même si elle les aggrave tous.
Merde, bon. Du coup, on fait quoi?
C'est pourquoi nous devons préserver notre patrimoine architectural, culturel.
Ok, la culture nous sauvera tous. Mais genre, qui comme artiste français?
Le pays de Gabin et de Delon, ouais. De Johnny et d'Aznavour.
Mais il est pas belge et arménien. Bon, après, je crois que la thématique de la vidéo, c'est la France. En tout cas, aucune faute historique.
Ce pays tellement intelligent et fantasque, le pays du Concorde et des centrales nucléaires, qui a inventé le cinéma et l'automobile.
Là, je savais pas que c'était nous, les Français, qui avions inventé l'automobile. Ah bah en plus, j'apprends des trucs, dis donc, parce que moi, je connais un peu le sujet. La première voiture à vapeur a été inventée en Chine, on a retrouvé des dessins chez Léonard de Vinci. Après, c'est les Allemands qui ont développé le projet. En tout cas, cette petite vidéo sur le Made in France, c'était chouette. Peut-être une chose sur laquelle il faut bien insister, Eric.
Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout.
Eh ben, espérons qu'on pourra triompher de lui aussi. Allez, bonne émission.
Merci.
Et Tom, on te retrouve sur scène à la Nouvelle F tous les lundis à 20h. C'est jusqu'au 20 décembre, donc dépêchez-vous.
Tanguy, pose ce Spirou et dis-moi de quoi tu vas parler tout à l'heure.
Eh bien, je vais vous parler de Charlotte Gainsbourg, cette dame peu connue pour sa pratique du twerk. Par contre, elle mélancolise très bien. Elle a rencontré un de ses fans, Nagui, son plus grand fan, et c'était magique.
Cadeau vous l'avez dit, Alexandre Kobinek, Petite Cheminée, bonjour. Alexis le Rossignol, Guy Bouchereau, Tom Vivian, Daniel Mort, et nos invités Mathieu Sapin et John Spar. Comme tu dis, oui, John Spar, le chat du rabbin, le 11e tome, la Bible pour les chats avec ses filles qui s'embrassent, c'est une espèce de...
Mais alors, mais c'est pas le sujet du livre.
Non, il y a...
Il a retenu ça.
Ça m'a surpris.
Oui. Mais elles s'embrassent pour dire bonjour.
Non, sur la bouche.
Ah oui. Mais oui, elles disent bonjour. Mais, alors, mais là, c'est le lecteur qui amène
vous
son manger.
Vous dites bonjour un peu, parce comme que j'ai ça
pas... Pour moi, elles se disent bonjour, il n'y a pas de scène...
Vous dites bonjour comme ça.
En disant chérie. D'accord,
ok. Oui. Fait la
d'ailleurs,
sur
vous dites plus bonjour à Nagui.
Moi, dans mon esprit, c'était la joue.
Ah, c'est pas non, c'est pas la joue.
Oh bah je dessine tremblant alors.
Comment? Bah ça dépend ce que vous faites en même temps. Oui, ah bah mais oui, là, oui,
d'accord, mais je dessine tremblant.
D'accord, ok, très bien.
Pour se dire bon appétit, elle couche ensemble. C'est
marrant. Vous faites pas ça vous?
Et donc puisque on veut qu'un miracle soit fait, puisque c'est le sujet de toute cette bande dessinée, autant appeler directement Dieu. Et puis ce chat lui a trouvé le numéro de téléphone de des points de suspension.
Voilà, il en est persuadé. Il en est persuadé, il va emmerder tout le monde avec. Et comme personne lui donne les explications qu'il veut, il va aller chercher dans la Bible. Et il a jamais autant étudié la Bible que pendant ce volume. Et moi, quand j'étais étudiant, j'ai découvert les lectures talmudiques de Lévinas et je me suis dit, mais de quel droit il fait ça? Il est pas rabbin. C'est dire si j'étais à l'époque. Bon, depuis, j'ai un peu évolué et je me suis aperçu que Moïse avait donné la Torah à tout le monde et que même un mécréant comme moi a le droit, si ce n'est de s'en emparer, en tout cas de tenter de la lire. Et je me suis intéressé aux miracles dans la Bible et à ce prophète Élie qui, à chaque fois qu'il fait un miracle, il y a marqué, mais dans la Bible, pas dans les commentaires, il y a marqué, Dieu n'est pas dans ce miracle, Dieu n'est pas dans ce... Et à un moment, Élie n'en peut plus, il s'assied, il est dans le silence, dans une grotte, il se passe rien, et dans la Bible, il y a écrit, Dieu était dans ce silence. Donc voilà que dans la Bible, on nous explique qu'il ne faut pas attendre de miracles et que ce n'est pas le Père Noël, que c'est autre chose. Je lui dis, tiens, ça c'est intéressant. Et voilà, je suis parti là-dessus.
Et la politique de l'autre côté, avec le ministère secret, le deuxième tome, Trembler en France, avec Mathieu Sapin et Johan Sfar, en binôme, Johan pour l'écriture du scénar et Mathieu pour le dessin. Je doute.
Et pour le personnage principal.
Ouais, pour le personnage. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Je donne de ma personne.
Je doute quand même que de temps en temps vous mettez votre grain de sel dans le scénar, Mathieu.
Mais
Sapin.
Pas tant que ça, non. C'est vraiment vrai. Ah non. Je suis totalement victime des délires de Sfar.
Et il n'y a pas de sujet tabou.
Voilà. Et donc après, il y a toujours le problème avec c'est ma femme qui découvre en lisant l'album que. j'ai une vie parallèle.
Ce que j'aimerais comprendre dans une bande dessinée aussi, c'est comment on décide, vu la densité, parce que je trouve que dans Le Mystère Secret, c'est extrêmement dense. Il y a des moments où il y a des planches ou des cases que vous réduisez, d'autres que vous pouvez agrandir, mais à quel moment on décide qu'un dessin ou une situation fera une double page, une autre fera une case plus petite? Ça dépend de quoi? De l'importance dans l'histoire ou du plaisir de dessiner?
C'est du rythme, et puis surtout j'essaie d'imaginer. Moi, j'aime bien raconter les choses à ma hauteur. Je suis pas très grand, je suis 1m66, et donc
c'est immense.
J'aime bien, qu'on voit les choses un peu comme si on les voyait avec mon personnage. Donc, et puis de temps en temps, oui, on prend de la hauteur avec des plans de drone presque, mais en BD. Et l'avantage, c'est que la BD, c'est pas cher, donc on peut faire tout ce qu'on veut dans mise en scène. C'est pas.
Vous vivez comment la situation où vous recevez donc ce que Johannes Farr a écrit sur vous et où vous êtes face à votre femme en disant « Chérie, je suis très frustré ». Est-ce que ça vous a fait éclater de rire ou est-ce que vous avez d'abord prévenu votre femme qu'il y avait une scène un peu chaude ?
Non, elle l'a découvert tout récemment. Mais non, mais ce qui est très drôle, c'est que tout est réaliste. Hein. Dans la BD, c'est vraiment la maison où j'ai grandi. Il y a vraiment mes cousins, il y a vraiment ma famille.
Il y a vraiment Dijon.
Tous les détails sont crédibles.
C'est ça qui est gênant.
Oui.
Non, mais ce avec quoi on joue, c'est que Mathieu me nourrit en permanence par le fait qu'il est vraiment reporter dessinateur dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il suit les présidents, il suit les célébrités. Et forcément, comme il me raconte tout, j'ai tellement l'impression d'être copain avec Tintin reporter que j'en fais des histoires débiles. Et le moment de frustration que vous évoquez à la fin, je l'aime bien parce que c'est le moment où il revient à la vraie vie et c'est forcément un petit peu il y a plus de silence quand on est dans la vraie vie que quand on sauve le monde et j'ai eu le sentiment qu'on pouvait tous s'identifier à ce moment-là.
Et finalement aller dans le sens des complotistes, c'est-à-dire de se dire que tout est nous sommes dirigés par des
Chut, on avait dit qu'on le disait pas à l'antenne.
Ok, d'accord.
Moi, je pense que la BD, elle va plus loin que les complotistes.
C'est ça. C'est juste.
On pense que les complotistes sont un petit peu.
Pour les rendre ridicules. Les mecs, allez plus loin, vous rendez pas compte.
Ça, c'est important parce que les repas de Noël arrivent. Oui. Vous allez avoir les pénibles à table. Si vous commencez à les raisonner, le repas est foutu. Si le type vous dit, évidemment, qu'Anne Hidalgo, elle a le pognon pour ses 5%, mais évidemment que le vaccin, il y a 5%. Tu commences à expliquer que c'est pas réaliste, le repas est foutu. Tandis que tu dis, mais oui. Mais toi, tu sais qu'une partie des choses. Et là, tu peux te lâcher. Non seulement tu t'amuses, et t'es gagnant-gagnant, parce que soit il y croit, il repart encore plus con, et tu passes un bon repas, soit il y croit pas, et t'as un peu le sentiment d'avoir aidé l'humanité.
Mais vous avez toujours cet œil qui va chercher le petit détail qui va faire rire, qui va être moqueur pour tout dans la vie. C'est-à-dire, vous vous amusez aussi bien à lire les infos, à écouter des émissions de radio, voir la télé, des films ou des feuilletons, en disant non mais là, il y a...
En fait, j'invente rien. Hier, on est à Bruxelles, on va pour prendre le train et on est en retard et je cours vers le contrôleur, un flamand, le mec qui se tient comme ça, et je lui dis « Monsieur, vous êtes le contrôleur ?» Et il me répond « Pas du tout, j'ai juste pris ce gilet et cette casquette, je les mets pour rigoler. » Alors moi je mets ça dans une BD parce qu'il est très bon le gars.
Voilà. Et vous allez mettre dans une BD l'annonce faite que vous m'avez montrée de d'Anne Hidalgo avec les 500 parrainages, 2R, 2N, une faute d'orthographe grave, drôle.
Anne Hidalgo peut encore causer la surprise hein, dans ses élections. Moi, ce que j'ai trouvé formidable, trouvé formidable dans l'affiche de ce matin, c'est oui, il y aura bien un bulletin Anne Hidalgo dans les urnes. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait mis l'important, c'est de participer. Et je trouvais qu'il y avait une humilité saine finalement dans un moment.
Très bien. Nous avons donc Johannes Farr et Mathieu Sapin en invité jusqu'à midi et demi. Et tout de suite, Monsieur Tanguy-Pastureau.
Hier, j'étais sur le site de West France pour voir si j'avais des proches parmi la liste des gens décédés parce que la veille au soir à De Grammes, ils avaient pris la voie express à contresens quand je suis tombé sur un article concernant Charlotte Gainsbourg. Or, j'adore Charlotte Gainsbourg parce qu'elle est simple, chic. Dans un t-shirt à trous, elle est élégante. Dans un sac poubelle avec du compost plein les cheveux, elle reste élégante. Elle est tellement élégante que le magazine Elle pourrait la foutre en une en train de lécher des dragées fucas tandis qu'un chien à trois pattes pisse sur son sac. Ça passerait. Donc, je l'adore. Mais je ne suis pas fan, je suis fan de personne, à cause de la bande originale. Ça fait 4 ans et demi, on aurait eu le temps de faire 6 enfants, Nagui, si la biologie et la passion avaient été de notre côté.
Tu parles.
4 ans et demi que je rencontre les stars, en vrai, bon, globalement, c'est une déception. Hein, ça fait 12 piges que la radio s'est filmée, mais la plupart n'ont toujours pas capté et viennent non maquillés, on les reconnaît pas. Je me souviens de la fois où Morgane avait fait le portrait de Michel Jonas, et la Michel Jonas avait dit « Mais bon Dieu, je suis Michel Blanc ». Enfin, heureusement que c'est Van, portait sur le prénom de Michel. Hein, le problème des gens qui vieillissent, c'est qu'ils
qui se ressemblent tous. Allez dans un EHPAD, vous savez plus qui est Henri, qui est Josiane. Il faut faire comme font les caniches, se repérer grâce à l'odeur du pipi. Donc, je ne suis fan de personne, mais Charlotte, je l'aime bien. Ce spleen permanent, cette pâleur qu'on ne voit que dans la famille Adams. Ces chansons jolies dont on se dit yes, ça groove, et là on écoute les paroles et ça parle de la mort. Et puis, j'aime les chanteuses et chanteuses qui murmurent. Quand j'écoute Étienne Daou, j'ai toujours l'impression qu'il est avec moi dans la salle de bain. Alors que quand j'écoute Céline Dion, j'ai toujours l'impression qu'elle est en train de me foutre dehors de chez moi. Donc, revenons-en à Charlotte. Le week-end dernier, elle était dans la Manche. Pas celle d'un petit haut Balenciaga, dans la Manche, le département. Le 5-0, comme diraient les jeunes, s'il y avait des jeunes dans la Manche.
Dans la Manche.
Parce qu'il y a un festival de cinéma à 40 ans, les Marais. Alors non, qui suppose que ça va être humide. Hein. Le Marais Poitevin, pareil, c'est humide. Et le Marais à Paris, un petit samedi soir de printemps, quand les chiffres du Covid baissent un peu. Bon bah, hein, voilà. Hein. Et là, nous dit West France, un de ses fans a fait le voyage depuis l'Antarctique, juste pour la rencontrer. Ce qui, sur le papier, est effrayant. Hein, moi, quand les gens font 2,5 km en bagnole pour venir au spectacle, je me mets déjà à hurler, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et encore, ça, c'est quand j'ai oublié ma lacrymo dans la loge. Alors, ce fan s'appelle José Sarica, il est directeur d'expédition en région polaire, ce lieu où il y a de la glace et qui, dans 5 ans, sera le nouveau Punta Cana. Hein, dans Trax sur Arte, on parlera de la scène reggaeton du pôle Nord. Et donc, il a un amour fou pour Charlotte Gainsbourg. Moi, paumé dans l'Antarctique, sous un ciel gris plombé, j'aurais choisi une star plus rigolote. Exemple, Marlène Schiappa, quoi. Lui, c'est Charlotte. Donc, il explique à West France, déjà à la base, avoir une passion depuis tout petit pour les orques et les dauphins. Alors, jusque-là, aucun rapport avec Charlotte Gainsbourg. Hein, en 87, elle a même raté le casting du Grand Bleu parce qu'elle nageait pas bien. Hein, mais dans le scénario de départ, Jean-Marc Barr devait lui jeter des sardines à elle en lui disant, c'est bien Kiki, allez dans le cerceau maintenant, tu peux le faire. Mais il dit qu'il est aussi fan depuis toujours de Charlotte Gainsbourg. Chez lui, explique-t-il, il y a un mur dédié à Charlotte. Alors, on a tous fait ça. Moi, ado, j'avais un dessous de lit dédié à Samantha Fox. Hein, c'est qu'ensuite que j'ai découvert l'existence de Catherine Ney et de Valérie Boyer. Donc, ce monsieur a tout laissé en plan en Antarctique. Des manchots ont fait « Wouah !» Ce qui signifie « Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que nous ?» Bon, et il est parti à Carentan, les Marais. Et là, on voit que Charlotte Gainsbourg est une belle personne. C'est qu'elle a accepté de le rencontrer dans un café. West France a filmé la scène. En général, il filme des algues vertes, donc ça les changeait. Et c'était beau. José a dit à Charlotte « Il y a encore 5 jours en Antarctique, j'étais dans la baie Charlotte. » Alors ça, c'est un truc de fan. Tout ce qu'ils font, ils voient ça comme un signe. Hein, si à l'hôpital, on leur fait perdre une Charlotte, ils disent « Mais en fait, rien à foutre de l'accouchement de ma meuf. Je me barre à Carentan, les Marais, j'arrive, chacha. » Et ils s'en vont. Puis José a offert à Charlotte un caillou des terres australes. Wow. Elle a dit « Ah oui hein, !» De la même manière que Pierre dans « Le Père Noël est une ordure » quand Thérèse lui offre le gilet. Enfin, elle a signé des vinyles, des CD, des affiches, parce que José avait tout un sac de production de Charlotte. C'est mieux d'être fan de la Rousseau, parce qu'avec un sac banane, vous avez tout. Hein. Ensuite, Charlotte Gainsbourg a dû dire un truc comme « Ah là là, j'ai mon train dans 5 minutes !» José a répondu « Mais enfin, il n'y a pas de gare !» Et elle a fui en traversant la Manche à la nage. Une fois en Angleterre, la police lui a dit, on va pas vous mentir, vous êtes notre migrante la moins typée depuis le début de la crise. Alors José, lui, a dit à West France qu'il vient de se passer ses 44 ans d'attente. Or, il a 44 ans. Donc j'imagine que dès la maternité, il était fan. Son premier cri était « Charlotte, je t'aime !» Enfin, les sages-femmes terrorisées ont appelé un prêtre exorciste. Il dit enfin qu'il s'agit du plus beau moment de sa vie. Quand je pense qu'ici, on a eu Charlotte Gainsbourg et que moi, j'ai rien ressenti. On a même eu Yvan Attal et le petit Ben Attal. Je crois que lundi, nous avons le chat Minouche Attal. Et moi, je suis là, je les regarde et ça me fait rien. J'ai perdu toute ma candeur. Même vous, Nagui, il y a tant de personnes qui aimeraient être face à vous. Et moi, bon, ok, là, j'ai encore une petite excitation. Hein.
C'est gentil,
mon
ça
gros
rassure.
Loup.
Merci, Loulou. C'est
et Tanguy, tu seras le 18 décembre à Cluse, en Haute-Savoie.
Oui.
Vous avez comme ça des fans qui peuvent vous inquiéter dans leur comportement.
Ce qui est drôle, c'est que j'étais à 40 ans les Marais.
Ah.
J'étais à ce festival.
Ah, toi ah, c'est lui mais... qui t'est collé, Charlotte.
Mais j'y étais le lendemain. Je n'ai pas croisé Charlotte. Et petite précision, il y a une gare à 40 ans.
Et ben voilà.
Voilà.
Ah, cette chronique était pas mal pour toi.
Mais elle était,
mais elle tombe à l'eau.
Est-ce que vous avez déjà été harcelé par des fans, Johannes
Farr? Oui, oui, le monde de la BD, ça agrège des choses et
inquiétantes.
Oui, oui, bien sûr. Je peux pas tout raconter à l'antenne, mais si, je me rappelle. Alors ça me concerne pas. Le punk anglais Pat Mills était à Paris et il y a un type qui avait décidé de se suicider devant lui. Il était habillé en punk et tout. Il avait prévu le couteau et tout. Et il avait heureusement c'était chez les frères Raskin qui étaient des géants, des libraires. Ils l'ont attrapé, ils l'ont empêché de se tuer parce que ça aurait dérangé tout le monde.
Il y a eu ça. Non, mais c'est parce que ça aurait dérangé tout le monde, notamment sa vie.
C'est juste
en
vrai.
Non, mais en général en BD, les gens sont très gentils. C'est juste qu'ils aiment beaucoup, ils pensent faire plaisir en amenant toute la bio pour faire des signatures. Et comme Joanne, il a fait plus de 150 BD, ça peut prendre du temps.
Moi, je dis toujours oui. Mais au début, j'avais personne, alors je faisais des dessins qui duraient un quart d'heure.
Oui, on se dit que on est dans la douceur, dans l'écriture, et que ça va pas forcément, engranger des,
réactions. Ouais. Avant-hier, il s'est passé un truc mignon. On était à Bruxelles avec Mathieu, et il y a une petite fille, je suis vraiment un salaud, j'aurais rien dû dire. Il y a une petite fille qui a essayé de me voler un feutre. Elle était toute mignonne, et je faisais mon dessin, et je la vois qui prend le feutre, qui le met dans sa manche, et qui fait la tête de quand on a volé un truc. Et je lui donne le dessin, je lui dis tout va bien, elle me dit oui. J'aurais jamais dû dire, j'ai dit tu peux me rendre mon stylo s'il te plaît. Elle a fait d'accord.
Et elle s'est mise à pleurer.
Non, elle était morte de rire.
Non, mais c'est mignon quand même.
Ah oui, c'était adorable. Mais je m'en veux, je me dis qu'est-ce que tu pouvais pas te taire. Non, mais
on a des fans gentils quand même.
Oui.
Non, ce qu'on aurait pu faire, c'est. Enfin, l'une idée, c'est de lui dire tu peux me rendre le stylo s'il te plaît pour dire j'ai compris, tu l'as volé, puis après il dit maintenant je te l'offre.
Mais là, je me refais le film de tout ce que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait.
Non, mais surtout pour vous, c'est un feutre. Mais pour elle, c'était peut-être le feutre de Jeanne.
C'est encore plus horrible.
Non, je pense qu'elle s'en foutait un peu de mes dessins. Elle était très contente du feutre.
Non, en fait, j'ai eu le téléphone, il lui a brisé le petit
kleptomane.
En fait, il est moche, quoi.
Non, mais ça peut aussi être des moments de loose. Parfois, il y a des gens qui prennent la BD et on dit vous voulez une dédicace? Ils disent non. Ça m'est arrivé.
C'est drôle, ça. Mathieu Sapin, John Sfar pour Tremblay en France. On va continuer d'en parler jusqu'à midi et demi. Et puis il y a également le chat du rabbin et puis d'autres événements dans la culture.
Oui. Si je vous parle de l'écofauvraja, je parle de quoi?
Pardon?
L'écofauvraja.
Ça a rapport avec...
Non, je sais pas.
Ça vous dit rien?
C'est du cinéma?
L'écofauvraja.
Oui, ouais. Ça y est, je sais. Il y a des BD qui sont nommés à Angoulême pour donc les prix mais écolo.
C'est absolument ça, voilà. C'est un nouveau prix qui va être donné à Angoulême, alors festival d'Angoulême qui aura lieu, on l'espère, du 27 au 30 janvier. Et ce prix va récompenser un album qui va traiter des enjeux écologiques et de développement durable.
Mais sur du papier recyclé,
c'est non imprimé.
Non.
C'est le futur de l'écologie.
Il y a sept albums en compétition, dont les très remarqués Le droit du sol d'Étienne Davodeau et en effet Le monde sans fin de votre camarade Christophe Blain avec Jean Covici, c'est ça?
Ouais,
c'est un duo.
Le monde sans fin.
Ouais. Est-ce que vous serez au festival cette année? Est-ce que vous y allez quoi qu'il arrive chaque année?
À fond. Ça permet de voir les copains. Oui. Enfin, s'ils le maintiennent, parce qu'ils nous font peur là, avec leur virus. Mais s'il y a moyen, moi j'y vais. Hein.
C'est pas une obligation, c'est un plaisir.
Mais on n'est jamais obligé d'aller dans un festival. Enfin, en tout cas, dans mon cœur, moi jamais obligé.
Mais c'est un festival important pour vous, Angoulême?
Oui, c'est vraiment surtout voir les copains.
Ouais.
Pour vous faire connaître, non?
Oui. La première fois, ça s'est très mal passé, parce que j'étais avec l'association Éditeurs Alternatifs, et puis, j'ai pas l'habitude, Jacques Toubon arrive, il était ministre de la Culture, pour nous serrer la main. Moi, j'ai pas été élevé à croiser les bras quand un mec arrive, j'ai serré la main, on m'a filmé, on a dit voilà, il est de droite. Ça a été le début d'une série de malentendus.
Et en plus, il lui a chouré un feutre.
Quel conseil BD vous pourriez nous donner?
Non, elle est espagnole. Quand la pété.
Alors.
Vas-y, Joanne, enchaîne.
Cette émission est hyper horaire.
Je vois qu'il est temps de reprendre les choses en main.
Voilà, merci de la réponse.
Alors, moi, ça arrive un peu tard, mais je suis en train de découvrir le manga. Mais je m'y mets très longtemps. Enfin, moi, je connaissais les trucs basiques, mais.
Qu'est-ce que vous n'aimiez pas avant dans le manga?
Ah non, mais j'aimais bien, mais je connaissais pas bien. Et là, je suis en train de plonger dedans. En quelques mois, j'ai lu la cantine de minuit. J'ai lu une série extraordinaire qui s'appelle La plaine du Kanto. Et c'est incroyable, les mangas. Il y a des trucs.
Il y a quand même une différence dans les dessins. Justement, on parlait des mangas avec des dessins qui sont surchargés de traits, d'expression, d'écriture et d'autres qui ont la ligne.
Bah, il y a tout surtout.
C'est quoi? C'est la ligne claire,
non? Ouais, mais non, mais dans les mangas, il y a tout. Et c'est des auteurs aussi différents que les auteurs de chez nous. Et moi, j'étais bête. J'ai mis des décennies à m'y mettre. Et là, je me dis, mais j'ai pas assez d'une vie pour lire tous les trucs chouettes qui existent.
Et vous, Mathieu? Donc,
voilà. Des conseils? Ouais. De copier. Je pense que c'est un très bon conseil de copier les bandes dessinées qu'on aime, qu'on admire. Et moi, j'ai beaucoup copié. Voilà. Oui.
Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment comme bande dessinée?
Copier n'est pas plagier, c'est s'inspirer.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en copiant, on apprend des choses. Ouais. Et puis après, le but, c'est évidemment de se créer sa propre écriture.
Ouais. Qu'est-ce que vous lisez?
Qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, beaucoup de choses. Une BD qui s'appelle Des Vivants, qui est chez un éditeur qui s'appelle 2024, de Sion Roussin. C'est super. C'est très beau, surtout. Et ça, c'est sur, ça se passe pendant la guerre. C'est un peu comme le dernier métro, mais en version BD. Mmh.
Quand vous dites que vous trouvez super une bande dessinée, alors j'imagine que vous allez me dire c'est 50-50 le scénario et le dessin, mais est-ce qu'il y a quand même l'un des deux qui l'emporte?
Bah c'est-à-dire que le dessin, c'est très important, mais si au bout de 10 pages on s'emmerde, les pages peuvent être très belles, mais ça
donc c'est avant tout le scénario qui compte.
Bah c'est une fusion, hein. C'est vraiment la bande dessinée.
C'est pour ça que j'ai dit, c'est 50.
C'est très difficile de.
Il y a des dessins qui rebutent, parce que quand on achète un album, on feuillette et on. Personnellement, je vois le dessin.
Pour répondre à la question, je dirais que.
Enfin!
Un dessin pas super, mais au service d'une histoire géniale, on peut être pris et voilà.
Est-ce qu'il y a des envies, des projets qui naissent en ce moment? Il y a déjà le tome Le Commando Barbare, c'est ça qui va.
Ça, c'est Johan
qui va arriver en janvier.
Ça, hein, ça, c'est une BD d'Heroic Fantasy qui est sortie à la rentrée avec Nicolas Karamidas et on fait le roman qui arrive en janvier. En fait, voilà,
c'est chez Glénat.
Chez Glénat.
Très bien. Et Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. Ça va devenir une série animée.
Il y a un projet de série animée avec Gérard,
Depardieu.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et puis il y a les années Mitterrand, réalisé par Jean-Pierre Pozzi, qui sortira.
Ah oui, vous avez entendu parler de ça. Oui, alors ça c'est un film.
La disparition.
Alors là, ça c'est un film qui sort en février, dans lequel je suis. C'est un peu comme dans la BD de Johan. Je suis un des personnages. Je suis à l'écran.
Vous dessinez quelques pages, c'est ça du.
Non, moi je suis dans le film et j'enquête sur qu'est-ce que devenu la gauche.
D'accord. Vous êtes devenu un personnage de bande dessinée, maintenant un acteur au cinéma.
C'est ça.
Comment votre femme vit, elle qui est frustrée, je le rappelle, aussi de votre vie. Comment vit cette réussite?
Je crois qu'elle est contente quand même. Mais
je crois qu'elle est contente.
Est-ce que c'est la seule solution justement pour exister fort aussi dans le monde de la bande dessinée? Parce que quand je pense à Riyad Satouf, il a mis en scène son enfance dans l'Arabe du futur. Quand je pense à vous, Johan Sfar, vous êtes aussi un personnage très médiatique.
Les trois sont passés par le cinéma aussi.
Vous avez fait du cinéma, vous avez beaucoup de succès. Est-ce que c'est aussi, sans que ça soit cynique, aussi une stratégie de se mettre en scène et d'être un véritable personnage pour continuer à faire les projets que vous avez envie de faire?
Moi, je crois en tout cas qu'on a appris comment parler des bandes dessinées et comment vendre des bandes dessinées. Ça, c'est plutôt pas mal. Mmh. Après, il faut faire attention à ne pas s'auto-censurer. Moi, à chaque fois que je me dis « Oh, ça, t'as pas le droit de le dire » ou « Ça, t'as pas le droit de l'écrire », c'est exactement ça que je vais dire ou écrire. Mmh. Aujourd'hui, on sait, quand un livre sort, faire le tour de toutes sortes de salles en France pour parler au public, etc. Mais moi, je veux pas parler au public pour dire rien. Si je prends la parole, c'est pour dire mon sentiment, quitte à ce que ça déplaise. Je préfère plaire à moins de gens, mais qu'on soit dit des vrais trucs.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien entendu, déjà désolé pour Johan Sfar, alias le Jedi de la plume, qui a entendu de la voix de Mathieu Sapin, alias 1m66 de talent, que son trait n'était pas super propre. Eh oui, Johan Sfar, l'escroquerie, ça a assez duré, il est temps d'apprendre le métier. Respectez le public si vous ne vous respectez pas. Désolé pour tous les chats qui nous écoutent et qui, depuis l'intervention de Johan Sfar, ont cru que maintenant, c'était autorisé de faire chier le monde sans en subir les conséquences. Il y a des limites, ça dépend chez qui vous vivez. Chez moi, tu laisses un poil, tu meurs. Désolé pour les amis de Nagui qui ont compris que pour les prochaines soirées de Monsieur Taratata, il va réclamer ça. Et attendez, c'est pas le pire. Il y aura aussi ça en fin de soirée.
Évidemment.
Ça sent la fiesta des vainqueurs. Bon week-end à tous.
Le ministère secret, le tome 2, Trembler en France, co-signé par Johan Sfar et Mathieu Sapin. Et Le chat du rabbin, le 11e tome, la Bible pour les chats. C'est aux éditions Poisson Pilote pour Le chat du rabbin et Dupuis donc pour Trembler en France. Merci messieurs en tout cas d'être venus à notre micro. Lundi, c'est Cyril Dion qui viendra nous présenter son film Animal sur notre espèce animale. Justement, nous faisons partie de cette espèce et nous devons avoir du respect pour les animaux si on veut avoir du respect pour soi. Et à propos du respect pour son prochain, ce soir commencera le Téléthon que j'aurai le plaisir de co-présenter aux côtés de Sophie Davant et surtout de Soprano, le parrain, en partenariat avec France Télévisions, Radio France évidemment, va sur ce Téléthon et on compte sur vous au 36-37 à partir de ce soir. À tout à l'heure pour le Téléthon, merci.